Inouï.
Inouï.
Une émission de création et documentaire sonore des étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.
Bonjour à toi et bonjour à tes oreilles. Toutes les petites mains qui composent ces florilèges sonores vous souhaitent, à vous trois, une année douce, une année riche, une année vraie. Inouï poursuit son chemin à travers champs. Champs fleuris, en jachère, au bord de la rivière, à flanc de coteau, et t'y attend. Aujourd'hui encore des voyages. Voyages du corps et de l'âme. Transport choisi ou contraint. 5 déplacements pour te soustraire du fauteuil ou du lit, d'où tu écoutes. En route avec Catherine, infirmière libérale en Dordogne. Elle nous emmène avec elle dans sa tournée, nous fait part de ses pensées. Le regard qu'elle porte sur ses patients nous permet de comprendre la relation particulière qui peut unir le soignant au malade.
Documentaire.
On a tout. On y va.
La route des soins de Laura Del Lac.
On file chez Aléguillac. Ça après, on passera par derrière. Ce sera drôlement mieux. Hier, j'ai manqué de me prendre 2 chevreuils. Je me suis jamais perdue. Par contre, je me suis retrouvée dans des endroits où je voulais pas aller. J'étais tellement au radar, tu vois. Je monte dans la voiture, je conduis. Je flippe, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'avais pas besoin. Tu vois. J'ai perdu du temps sur la route, oui, mais je me suis jamais perdue. Et là, je vais te montrer une tombe. Tu vas voir. On passe au-dessus du cimetière. Et à chaque fois, je regarde. Tu vas voir, c'est terrible. C'est elle qui est là, dans le coin, toute seule. Tu vois, ils ont agrandi le cimetière. Et regarde, elle est toute seule dans le coin à droite. Oh là là. Elle est morte. Hein. Il y a une phrase... Je crois que c'est vanitas vanitae. Ça veut dire vanité des vanités. Et quand tu sais que quelquefois, moi, je vais me promener et je vais me promener à pied et je vais dans un cimetière. Je trouve que c'est ça recadre bien les choses, tu vois, d'aller dans un cimetière. C'est vraiment. Si t'as un peu la grosse tête, là, ça t'assomme un peu. Ça recadre, hein. Tu sais, la voiture, pour moi, c'est un caisson. Tu sais, un caisson étanche. Le caisson... C'est le je reviens à la ligne, tu vois, j'efface tout et je recommence. C'est l'endroit où après, tu vois, tu penses à tout ce que tu as dit, tout ce que tu as, tout ce qu'il faut que tu dises, tout ce qu'il faut que tu fasses, tout ce qu'il y a encore à faire. sa piqûre. Je crois qu'il y a un chien là. La terreur des chiens, non. Non.
Oh là là.
Mais il y a moins de vent. Au revoir. Alors j'ai fait mes mouvements. J'y arrive. Oups, ça va, c'est bon. Attends, qui c'est que j'ai oublié moi? Ben oui, voilà. Pourquoi j'ai choisi de faire l'infirmière, moi? Tu vois, médecine m'intéressait, mais dans le métier d'infirmière, il y a le côté pratique qui est là, et où ça s'appelle soins infirmiers, tu vois. Donc il me semblait que t'apportais une réponse plus concrète qu'un diagnostic. Tu fais partie du traitement. Tu comprends ce que je veux dire? Je crois que dans ces métiers-là, tu touches. Tu peux pas tricher devant la maladie. Tu comprends? Tu peux pas. L'homme est obligé d'être vrai, qu'il soit n'importe qui, qu'il soit un homme important. Il reste un individu à part entière qui vit sa maladie différemment. Oh, mince, il dort encore. Et ma clé. Oh, c'est fermé à clé. Oh, on sera jamais. Je pouvais pas. Hein. Il fallait que je le change et tout. Et ça pouvait pas attendre les filles, elles passent vers midi, midi et demi pour faire sa toilette. J'en ai un, là, salut Jean-Marc. Lui, il a dû trouver des cèpes. Et mon métier, il est en dehors de l'appel. C'est du quotidien. C'est je vais chercher mon pas et tu trouves encore une personne qui t'interpelle ou... C'est aussi parce que ça fait 30 ans que je suis sur le terrain, ça fait 30 ans qu'il y a des gens qui me font confiance et tu as des gens qui te remercient gentiment. Simplement merci, tu vois, ça c'est très touchant. Moi, bon, et puis aussi, il ne faut pas croire... Que tu fais ce boulot rien que pour avoir des merci et des salutations distinguées. Hein. T'en as qui en ont rien à faire, hein. Qui te crachent à la figure, tu vois. Ça fait partie du job aussi. Hein. Justement, c'est ce qui fait la richesse et la diversité. Chaque personne est différente, même si tu vas réaliser le même acte 5, 6 fois, 10 fois dans la matinée, eh ben, ton acte, il n'aura pas la même saveur. Sur Monsieur Machin et Madame Trucmuche. Ah, mais t'as vu l'heure? C'est pas possible. Il m'en reste 3 là. C'est pas vrai. Ici, t'as des gens qui ont beaucoup travaillé, hein. des gens qui ont beaucoup, qui sont usés, sont douloureux. Ils sont douloureux, ils sont naïfs quelquefois, je trouve. Naïfs parce qu'ils sont encore... Je parle des très vieux, tu sais. Ils ne savent pas. Ils ne disent rien, ils écoutent et ils ne revendiquent pas. Bien que maintenant, cette génération-là est en train de s'éteindre. Je vois même les gens ici en clientèle, comme ils ont évolué, changé. Les gens sont très très exigeants, tu sais, beaucoup plus qu'avant. Beaucoup. C'est pas demandeur, hein. Ils exigent. Maintenant, ils lisent Top Santé, je sais pas trop quoi. Et qui c'est qui m'a dit, même encore, mais il n'y a pas une semaine, tu vois, j'en ai pas un qui me dit, mais je vais regarder sur Internet, ou j'ai regardé sur Internet. Oui, mais t'as raison. Ah là 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 là, mais c'est facile à faire les piqûres. Oui, 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 c'est très facile à faire les piqûres. À la différence que moi, je sais ce que j'injecte et je sais où je l'injecte. Maintenant, faites comme vous voulez. Le temps que je passe avec mes patients dépend du soin que j'ai à faire. Mais comme je ne fais plus de soins d'hygiène, je passe peut-être moins de temps. Maintenant, ben, y a des services d'aide-soignante à domicile qui font ce travail. C'est aussi une évolution, tu vois. Avant, je faisais même des toilettes mortuaires. Hein. Tu vois, je faisais des toilettes mortuaires. Hein. Même, je me rappelle une fois, il y en avait une, elle voulait que je l'enterre avec son jupon de mariée. Je lui mets son jupon de mariée. Oh là là. On en parle encore avec sa fille, tu vois, de cette histoire du jupon de mariée. Et même avec sa petite fille.
Allô, oui? Oui, madame. Et est-ce qu'ils m'ont changé l'aiguille? Je le fais demain, je le prévois quand même demain. Bon, je le prévois demain. Entendu. Merci, au revoir. Il y a des personnes qui m'ont beaucoup aidée dans la mesure où ils étaient très forts et la façon dont ils ont abordé la maladie était assez stupéfiante, assez... Il y a des gens que tu ne peux pas oublier... Que je ne peux pas oublier. Il y a des gens, non, c'est absolument impossible que je les oublie. J'ai toujours leur visage, j'ai toujours leur, leur vie, de leur mort devant moi. Je les ai, je peux pas les oublier, non, c'est pas possible. J'ai des gens j'ai eu l'exemple d'une dame. C'était convenu entre eux dans la famille que on ne parlait jamais de la maladie, on ne parlait jamais de la mort. Moi, j'allais faire des injections et puis je voyais bien ce que j'injectais. Et je dis, mais c'est pas possible. Tout le monde siffle, tout le monde est joyeux. J'avais des doutes. Je dis, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Et j'ai fini par téléphoner au médecin traitant pour lui dire que moi, je n'y comprenais plus rien, que... pour moi, c'était hyper dur, je n'arrivais pas à comprendre. Et le médecin m'a vraiment rassurée et m'a dit que la famille avait décidé de vivre comme ça. C'était leur choix de vivre. Ils avaient décidé de vivre en ignorant la maladie. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai été voir le mari pour parler avec lui, et à partir de ce moment, ça a été très très bien. Je me suis sentie vraiment bien, comme quoi il faut toujours parler pour pouvoir être mieux, tu vois, parce que là, moi, j'en pouvais plus, tu vois. Et puis ça s'est très très bien passé après, très très bien. C'était vraiment en toute intimité, une mort. Si tu savais, j'ai envie de réfléchir à tout ça.
La route des soins de Laura Del Lac. Merci à Catherine, Angoulême, Créadoc, novembre 2012. In, oui.
Et s'il n'y a pas un peu de plaisir, écoutez, pourquoi on passerait-on, hein?
Parce que ça, on n'a quand même pas trop de mal, quand même, hein?
In, oui.
Création radiophonique.
L'homme à la mer, c'est vraiment quelque chose d'horrible, et donc méfiance. C'est des gens qui sont très difficiles à ramasser et à ramener en bonne santé, même s'ils sont vivants au moment où on les aborde. Il faut réussir à l'amener vivant à terre, quoi. Et c'est pas simple.
C'est quoi, c'est...
J'ai bien vu que c'était pas une apnée. Donc j'ai plongé et cette journée a disparu.
Ah. Je suis passée à dire qu'un destin, en personne ce que je suis là. Je me rappelle de bien. Monsieur que je ne me rappelle plus. Ah, personne ne sait. Une fois j'étais là et je n'ai pas su. J'ai mal.
Liberté.
Des fois, j'ai mal.
Liberté.
Et on applique sur ses épaules des coups avec un cordage goudronné.
Vous pouvez pas m'expliquer pourquoi des fois j'ai mal. Ils savent plus ce qu'ils doivent faire.
Personne ne sait.
Ne te retrouve pas. fois, je suis tombée. 1, 2, 3, 4, 5.
Et là, quand je l'ai récupéré sur mon épaule, quand sa tête a basculé en arrière, j'ai bien vu que c'était quelque chose de costaud. Donc on l'a...
Au bord de la plage.
On l'a sorti de l'eau.
Passager clandestin. Invité de dernière minute. Donc c'est moi l'invité de la dernière minute, alors.
Si on réagit pas vite, il y a de l'eau qui rentre partout, en fait. Et partout, c'est-à-dire aussi dans les poumons. À partir de ce moment-là, ça commence à être vraiment dur de récupérer quelqu'un indemne.
Tout bouillé.
Quelqu'un qui va se noyer parce qu'il est en difficulté, il va s'ébattre, il va faire de la mousse, il va crier, il va lever les bras, justement.
À la fin, je fais du vide. Ah, le temps du répit, du secours au-dedans de soi.
Dans ce naufrage, c'est le fil de la vie qui use et menace de rompre. Une autre trajectoire improbable chez Meursault, le héros du roman L'étranger d'Albert Camus. Dans l'adaptation que j'ai réalisée et vous propose à l'écoute, Meursault voit son horizon se boucher, il perd le cap.
Le type était revenu. Il était seul, il reposait sur le dos, les mains sous la nuque. J'étais un peu surpris, j'étais venu là sans y penser. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman. Et comme alors ? Le front surtout me faisait mal. Et toutes ces veines battaient ensemble, sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement, en avant. Je savais que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas. Un seul pas. En avant. L'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu. Et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse. Et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, la quiétude exceptionnelle d'une plage où j'avais été heureux.
Quand je suis entré en prison, j'ai compris au bout de quelques jours que je n'aimerais pas parler de cette partie de ma vie. En réalité, je n'étais pas réellement en prison les premiers jours. C'est seulement après la première visite que tout a commencé. J'ai senti que j'étais chez moi, dans ma cellule, et que ma vie s'y arrêtait. Lorsqu'un jour le gardien m'a dit que j'étais là depuis 5 mois, je l'ai cru, mais je ne l'ai pas compris. Pour moi, c'était sans cesse le même jour qui déferlait, et la même tâche que je poursuivais. Le jour finissait, et c'était l'heure dont je ne veux pas parler, l'heure sans nom, où les bruits du soir montaient de tous les étages de la prison,
dans un cortège de silence. Je me suis approché de la lucarne. Je me suis souvenu alors de ce que disait l'infirmière à l'enterrement de maman. Non, il n'y avait pas d'issue et personne ne peut imaginer ce que sont les soirs dans les prisons. Je suis entré. C'était une salle très claire, blanchie à la chaux et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. Deux d'entre eux, au centre, supportaient une bière recouverte de son couvercle. À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir. Il a bégayé un peu.
On l'a couverte. Mais je dois déguiser la bière pour que vous puissiez voir votre maman.
Non, c'est inutile.
Vous ne voulez pas ?
Merci, je ne le souhaite pas.
Pourquoi ?
Je ne sais pas.
Je comprends. Je vais vous laisser seul.
Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté, debout derrière moi. Cette présence dans mon dos me gênait. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi, et je sentais le sommeil me gagner. Un peu plus tard, les autres pensionnaires de l'asile sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine et ils glissaient en silence dans cette lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinçât. Ce qui me frappait dans leur visage, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne. Les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents. Sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi, à dos de l'inné de la tête, autour du concierge. Peu après, une des femmes s'est mise à pleurer. Elle pleurait à petits cris, régulièrement. J'étais très étonné parce que je ne la connaissais pas. J'aurais voulu ne plus l'entendre. Pourtant, je n'osais pas le lui dire. La nuit a passé. J'ai vu que les vis de la bière étaient enfoncées et qu'il y avait quatre hommes noirs dans la pièce. Le ciel était déjà plein de soleil, il commençait à peser sur la terre et la chaleur augmentait rapidement. J'avais chaud sous mes vêtements sombres. Nous nous sommes mis en marche. Le directeur m'a dit que souvent ma mère allait se promener le soir jusqu'au village, accompagnée d'une infirmière. Je regardais la campagne autour de moi. À travers les lignes de cyprès qui menaient aux collines près du ciel, cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées. Je comprenais maman. Le soir dans ce pays devait être comme une trêve mélancolique. J'étais surpris de la rapidité avec laquelle le soleil montait dans le ciel. La sueur coulait sur mes joues. L'un des employés des pompes funèbres s'est placé à mon niveau et m'a parlé.
Il fait déjà très chaud.
Oui, il fait chaud.
C'est votre mère qui est là ?
Oui, oui.
Elle était vieille ?
Comme ça. Je ne savais pas le chiffre exact. Il y a eu encore l'église et les villageois sur les trottoirs. Les géraniums rouges sur les tombes du cimetière. La terre couleur de sang qui roulait sur la bière de maman. Et la chair blanche des racines qui s'y mêlait. L'heure déclinait au dehors et la chaleur était moins forte. Aux quelques bruits de rue que j'entendais, je devinais la douceur du soir. Nous étions là tous à attendre. Et ce qu'ensemble nous attendions ne concernait que moi. Quand la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui montait vers moi. J'ai essuyé la sueur qui couvrait mon visage et je n'ai repris un peu conscience du lieu et de moi-même que lorsque j'ai entendu la présidente du tribunal.
Accusé, levez-vous. Après délibération, les jurés ont pris une décision à l'unanimité. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous condamne à la peine capitale. Vous aurez la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français.
Il y a eu un moment de silence. Pour la première fois depuis bien des années, j'ai eu une envie stupide de pleurer. Il m'a semblé alors reconnaître le sentiment que je lisais sur tous les visages. Je crois bien que c'était de la considération. Je ne pensais plus à rien. C'est alors qu'on m'a emmené. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Je l'approuvais dans ma prison, quand le ciel se colorait et qu'un nouveau jour glissait dans ma cellule. Au bout du compte, mon cœur n'éclatait pas. Et j'avais encore gagné 24 heures. J'écoutais mon cœur. J'essayais de me représenter une certaine seconde où le battement de ce cœur ne se prolongerait plus dans ma tête. Mais en vain. Alors je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui a crevé en moi. J'avais l'air d'avoir les mains vides. Mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui. Je n'avais que cela. Mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison. J'avais encore raison. J'avais toujours raison. C'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minute et cette petite aube où je serais justifié. Rien. Rien n'avait d'importance, et je savais pourquoi. J'ai retrouvé le calme. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi, entrer en moi comme une marée. Seul. Une libre adaptation du roman L'étranger d'Albert Camus, par Marc Tournier pour le Créadoc en février 2014. Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont collaboré à cette réalisation. Transport de l'âme des champs de la terre vers le ciel. Ou comme a dit saint Augustin, qui bien chante deux fois prie. Dans la pièce que propose Audrey Houdard à votre écoute, voix et instruments se mêlent. Le dialogue entre des objets sonores et la voix soliste d'une religieuse nous transporte là où notre âme veille.
Dieu dans son temple saint, louez-le au firmament de sa puissance, louez-le pour ses œuvres éclatantes, louez-le pour sa grandeur infinie.
Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe vierge sur la poignée du verrou. Jérusalem, Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui déclarerez-vous? Que je suis malade d'amour.
C'était Oh ma sœur, une pièce sonore d'Audrey Oudart.
Inouï.
Une émission de création et documentaire sonore.
Par les étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.
Et qui mieux que les alpinistes pour parvenir à atteindre les sommets? Avec Premier de Cordée, Marie-Noëlle Battaglia et Paul Chailloux nous offrent une rencontre marquante au-delà d'un documentaire. Première expérience d'une course en montagne, grimpée, piolet en main et crampons au pied un couloir enneigé. Reliés les uns aux autres par une corde. La cordée comme un certain rapport à la vie, la confiance entre les compagnons de cordée. Les risques propres à la montagne et la fascination qu'elle peut susciter. Merci à Marco, Nicolas et Mathieu.
Ça, c'est beau, hein?
Ouais, c'est beau.
Et juste avec la lune, en fait, on y va super bien.
C'est un bon moment le lever du jour parce que c'est souvent t'as pas encore attaqué vraiment les difficultés ou alors bon c'est souvent un très très bon moment. Ouais. D'un seul coup tu vois toute cette beauté qui est là, t'as fait tout un chemin, tu sais pas trop où t'es parce que c'est vachement difficile finalement. Tu pars de nuit, tu vas faire un truc et si tu vas faire une montagne qui est dans les autres montagnes, il fait nuit quoi. Alors des fois tu peux te gourer hein, parce qu'il y a pas de traces et il y a pas de. Tu marches un peu à l'instinct quoi. Ta vie se limite à ta frontale, là, c'est un petit peu réduit comme truc.
Et donc là-haut, c'est quoi? C'est à 2000 là?
2050. Premier belvédère de la vallée d'Ossau. On devrait avoir une jolie vue sur les Gabizos, la Moulate, le pic du Midi d'Ossau. On devrait le faire.
Et on est à combien là?
On est à moins de 1000 mètres. 1100. 900 mètres de dénivelé. Ah, c'est bon, vous avez la caisse.
Ça va.
Mon père, à l'époque, était président du club alpin quand j'étais petit. Donc, chez moi venaient les grands alpinistes de l'époque. Donc, il venait Gaston Rébuffa, il venait dormir à la maison, manger à la maison. Lionel Thierry, René de Maison. Moi, j'étais tout minot, quoi. Je voyais ces bonhommes. J'étais impressionné, je les écoutais parler. Ce qu'ils disaient, tout ça, ça me touchait plus qu'à la limite que la pratique, quoi. Je trouvais que c'était des sacrés bonhommes, quoi.
Ouais, nous y voilà.
On a bien monté, hein?
Ouais, ouais. Ben, on a déjà fait 700 mètres de dénivelé. Toujours le crampon droit.
Comme j'ai pas voulu faire guide, j'ai organisé ma vie pour pouvoir faire de la montagne. Donc j'ai fait des petits boulots, des petits ci, des petits... Enfin, j'ai fait tout un tas de choses. Mais je me suis débrouillé pour avoir être un peu libre quand il fallait être libre. Pour obligatoirement le week-end, parce que si la montagne a décidé que le week-end il ferait pas beau, c'est elle qui commande, quoi. Je vais paraphraser Rébuffa, hein, qui dit il y a l'aiguille du midi, on y va en téléphérique. Donc les gens, ils montent dans le téléphérique, ils arrivent là-haut, waouh, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est beau, oh là là. Il dit oui, mais si tu y vas par tes propres moyens, que tu marches pendant des heures, que tu tu as vécu un moment où tu as transpiré, où tu as eu des doutes, où tu dis mais j'y arriverai pas, puis si, ça y est, je vais y arriver, puis merde, non, si, oui, et puis c'est trop beau, puis tout est beau, et c'est beaucoup plus beau. Et pourquoi, dis, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment comme ça, quoi.
C'est bon, j'ai vu. Aïe. Petit câblé dans la fissure. Voilà. Et on teste le câblé. Génial, ça tient.
Ok, relais, tu peux venir.
Je pense que la cordée, c'est une histoire de confiance, voilà. Si tu pars avec quelqu'un que tu sens pas, t'es pas un premier de cordée, t'es un premier de cordée de merde, et la cordée, c'est de la merde aussi, quoi. Quand t'es avec un second de cordée, au contraire, il te fait même faire des prouesses, parce que tu te sens bien avec lui, tu sais qu'il sait faire, qu'il fait ce qu'il faut quand il faut, t'as même pas besoin d'en parler, donc t'y vas, quoi. Que si t'es avec quelqu'un, tu sais pas comment il va t'assurer, si tu sais pas s'il va te lâcher la corde quand on va en avoir besoin, parce que toi... Il va te faire tomber, quoi. Donc je pense que c'est un tout, quoi.
Et viens ici et tu vas t'accrocher sur le relais. Un petit cab. Regarde, hop, c'est bon.
Tu dois avoir le frien et le câblé.
Tu auras un tout petit mousqueton,
j'en ai plein.
Je reprendrai la dégaine sans. Super. Et on fait pareil dans la cordée, je repars. Et tu m'assures, tu vérifies que la corde elle défile bien, qu'il n'y ait pas de nœud. Et quand je serai arrivé en haut, je fais mon relais. Et quand je dis relais, c'est-à-dire que toi. T'es pris en sécurité en haut, donc tu peux te détacher de la sécurité d'en bas et partir.
Comme moi, je fais ça depuis longtemps, je suis arrivé à une période dans l'alpinisme. Il fallait vraiment vouloir parce que c'était très médiatisé, et médiatisé du style de maison, c'est le mec. C'était toujours morbide. Tout le monde était mort, c'était de maison qui sortait vivant du truc, quoi. Celui qui arrivait au sommet, c'était presque le survivant, quoi. J'exagère presque pas, hein. Le premier de cordée, il avait rien, l'autre, il était des pieds gelés, on l'amputait, on lui coupait les ongles, les doigts, les pieds, les machins. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En fait, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas ça du tout, ouais. Je pense qu'une cordée, c'est une réussite, c'est les deux, quoi. C'est-à-dire, quand on arrive au sommet, on se fait la bise.
Allez, tape bien.
Attends, faut que j'arrive à...
Vas-y, prends ton temps.
Ah, parfait.
C'est normal, faut que la corde soit bien tendue. C'est notre sécurité. Corde tendue égale sécurité.
Ok, et là, faut que j'arrive à monter mes pieds, c'est assez haut.
Ouais, prends ton temps, vas-y, c'est tendu, c'est bon. Je suis sur mes piolets qui tiennent. Ouf. Voilà. Tu la sens, la motte de terre gelée, ça tient. On met tes pointes avant de crampon. Pas sur le côté, sur les pointes avant.
Ouais.
Et du coup, voilà, ta sécurité, c'est ton planté de collet. Il faut vraiment bien.
Bien. C'est bon.
Nickel.
Et bon, effectivement, moi aussi, j'ai bien aimé chercher le toujours plus aussi, quoi. Mais après, c'est un peu une drogue aussi, il faut faire attention, quoi. C'est vrai qu'arrive un moment, j'ai vécu des trucs où tu t'en fous de mourir. Que tu dis, moi, enfin, presque. Et là, je pense que ce serait pas très bien, ça, quoi. Je veux dire, c'est plus, le plaisir, il est où, là? Tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fous, là, quoi? C'est de la glace, machin, je peux plus faire demi-tour. J'en peux plus. C'est pas les bonnes conditions. Je suis con, j'ai voulu me prendre pour je sais pas quoi, là. Qu'est-ce que je fous, là, espèce de petit con, à faire des trucs à ton niveau, là, retourne chez ta mère, tu n'as rien à faire ici, c'est pas pour toi. Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé. Je souhaite pas que ça arrive, c'est pas une fierté, quoi. C'est pas très malin.
Hein. Ok, la fissure est bouchée au bout. Donc c'est pas bon.
Donc là, tu essaies de creuser la fissure
avec... Ouais, d'enfoncer un piton pour faire un deuxième point, un relais, si on le fait toujours sur deux points. Et là,
Ah, c'est pas top.
Et quand t'es encordé, putain, c'est pas évident de dire à l'autre, bon là, j'en peux plus, je vais mourir, toi aussi. Hein. Donc, mais non, je pense que le copain, ça sert vachement. Tu dis non, je peux pas mourir. Hors de question, je laisse le copain ou la copine, je sais pas qui. Donc ça t'aide à te calmer, à assumer finalement. Et finalement, tu finis par t'en sortir parce que merde, quoi. Mais c'est bon, tu ouvres des portes qui sont pas... Ils sont un peu bizarres hein, quand même.
Allez, les derniers mètres. On reste hyper concentré.
Hyper concentré.
Yes, la bise du sommet, Polo. C'est une vue pareille. Putain, merci Fanfan. Il avait dit que la vue était belle.
Ah ouais, quand même. Ça pète. Hein.
Waouh. Hop, putain.
Penmeda.
Penmeda, pic du Gers, Hakim le Berbère, la moulade derrière qui dépasse.
Là ?
Ça c'est magnifique.
Ouais, derrière, là. Hakim le Berbère. Là.
Moi j'aurais plutôt dit que c'était là-bas le pic des Coutiettes.
Non, non, c'est celui-là. Là. Tu le premier, la face, ah oui, c'est le Penmeda, tu sais, qui est tout seul. Et l'arête, la taillante Pensarrière, là.
Ah ouais.
Qu'on voit, la moulade derrière qui dépasse.
Ah oui.
Rognon du Gers, regarde ce que vous avez fait, là, ta face, là.
Ah ouais.
Et l'Osso, le Jean-Pierre. Oh putain, c'est beau.
C'était Premier de Cordée de Marie-Noëlle Battaglia et Paul Chailloux. Hommage imprévu à Marco, disparu en montagne quelques mois après la réalisation de ce travail. Pour chacune, pour chacun, la route continue, avec ou sans virage. Par la fenêtre, des paysages sonores inouïs défilent à nos oreilles pour goûter les plaisirs des voyages. Rendez-vous bientôt sur les ondes de la FM. Inouï, une émission habillée et mise en onde par Marie-Noëlle Battaglia, est présenté par Marc Tournier.